voudrais ce soir revenir sur l'importance de quelque chose qui ne va pas de soi parce que c'est quelque chose qui se crée dans le rapport à l'autre. Et c'est quelque chose qui définit à la fois un nouvel espace et un nouveau temps, une sorte de mise particulière, et que le psychanalyste peut être amené à trouver, on va dire à recueillir. Ça ne veut pas dire que c'est un acte passif, évidemment, à un certain moment dans l'expérience du français. Alors, ça va tellement pas de soi que pour parler de ça, Lacan parle et évoque de la façon suivante: la jouissance qu'il faut est justement celle qu'il ne faut pas. Donc, je voudrais ce soir aborder une nouvelle fois, encore. Vous savez que ce que j'essaie de définir cette année est particulièrement proche de ce que j'entends quand j'écoute le séminaire de Lacan encore. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Pas lire, hein, la transcription de Miller ne permet pas, enfin pour moi du moins, c'est l'expérience de la voix, du chant lyrique, ne permet pas d'entendre certaines choses au-delà du sens, puisque la question c'est l'au-delà du sens. Et il ne suffit pas de dire que Lacan était celui qui créait une certaine mise en scène pour que ça suffise. Et j'ai annoncé pour ce soir la substance jouissante, alors révélée par le mythe. Je pense que ça va venir comme ça dans les ans, dans la création de ce que je développe avec Lévi-Strauss, révélé par la musique et révélé par l'expérience du français, c'est-à-dire par l'expérience de la psychanalyse. Il y a évidemment une très grande proximité entre les trois, non seulement parce que c'est effectivement quelque chose qui prend en compte la dimension du corps, la dimension du langage, mais parce que l'inconscient est un savoir-faire avec la langue, écrit en un seul mot, comme le fait Lacan, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien ce que c'est pas le langage, c'est quelque chose qui, donc on peut quand même dire un mot, c'est quelque chose qui, justement, essaie de transmettre, de prendre en compte la dimension de la signifiance. À ceci près que le signifiant, comme la signifiante, n'a rien à voir avec le signifié. C'est que dès qu'on parle d'un signifiant et qu'on a immédiatement, parce qu'on est fait comme ça, la dimension du sens qui apparaît, on n'est plus dans la signifiant. Cette barre, que de Saussure présente comme l'arbitraire du signe, entre le signifiant et le signifié, est quelque chose qui doit être entendu comme la séparation de ces deux champs. Ça ne veut pas dire, ça, l'expérience des transferts nous le transmet, mais ça n'aurait pas lieu si la barre n'était pas ainsi faite, qu'il n'y ait pas parfois du signifiant qui vienne s'infiltrer dans le signifié. Je n'ai pas trop parlé de ça en tant que tel, et pourtant, la question que nous posons depuis quelques mois, la question qui revient ce soir, c'est quelque chose qui, pour ma part, mais parmi vous, il y a beaucoup d'artistes, hein, je salue notamment ce soir la présence d'Arthur, Joffé, qui est là, qui est metteur en scène, qui est du cinéma. Il y a quelques temps, a réalisé un film assez extraordinaire qui s'appelle Ne quittez pas, que j'ai vu récemment. Je vous conseille d'aller le trouver sur le site. Chercher plus exactement sur Amazon ou sur. Vous trouvez ça avec son nom, Arthur Joffé. Un film où il y a beaucoup de vie. Eh bien, alors là. La question importante que, il me semble, qui est en jeu dans l'expérience du transfert, mais aussi bien dans la création artistique, et pour Lévi-Strauss, dans cette présence insaisissable qui est au cœur du mythe, je pense qu'on aura l'occasion de développer ça dans quelques mois. Je fais une parenthèse quand même, puisque je glisse comme ça. Vous savez que quand Lévi-Strauss fait cet opéra en quatre actes, qui s'appelle Mythologie, qui est le premier acte publié en 1964, c'est Le Cruel Cygne, et le dernier en 1971, qui s'appelle L'Homme Nu. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, c'est notre opéra, plus d'opéra, une ouverture et un final. Et évidemment, on comprend toujours le final à partir de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'on peut comprendre dans le même sens aussi l'ouverture à partir du final. C'est quelque chose qui est assez compliqué, j'en ai rendu compte dans le final de Don Giovanni à partir du cri de Don Juan. Eh bien, ce que dit Lévi-Strauss, c'est qu'il est parti avec une hypothèse qui était que c'est au cœur de la musique se trouve ce qui est au cœur du mythe, et avec ses années de travail, ses quatre volumes, le final l'amène à trouver, pour écrire avec Lacan, qu'il ne voulait pas savoir, c'est-à-dire que c'est l'inverse, c'est la musique est en fait un effet de quelque chose qui se trouve dans la structure du mythe. Donc on aura sans doute l'occasion de reprendre ces éléments-là. Alors, ça me permet de développer le fait que, en ce qui me concerne, notamment c'est dans l'expérience du chant, que j'ai un peu, me semble-t-il, je m'approche un peu de cette expérience de la substance jouissante, parce que cette dimension de la substance jouissante est effectivement quelque chose qui ne rentre pas dans les deux autres substances que nous connaissons bien, c'est la substance pensante et la substance étendue. La substance pensante, elle se résume effectivement au sujet qui pense, et on sait que c'est pour autant que justement la pensée s'arrête, c'est-à-dire que le dit ne peut plus tenir la route, c'est-à-dire que le sens en quelque sorte défaille, que quelque chose, un savoir, un autre savoir peut apparaître, et que du moins peut être pris en compte le dire, c'est au-delà du dit. Le dire, c'est au-delà du dit. C'est pas encore ça la jouissance. Je ne pense pas. Il y a donc cette dimension de la substance pensante avec cet au-delà, et puis la substance étendue que l'on connaît, hein, c'est tout à. Vous voyez que la science moderne se développe dans cet espace-là, avec tous les problèmes que ça pose, et surtout le fait que cette substance étendue, en quelque sorte, on peut la penser, puisque justement c'est quelque chose qui est pensable, même si c'est parfois difficile à penser. On peut la penser comme quelque chose qui est un pur espace, et la pureté de cet espace, elle est définie par des parties. Hein, c'est ce qu'ils ont fait un peu de latin, c'est partes, extra partes. Donc c'est des parties qui s'ajoutent à des parties, chaque partie se mettant à l'extérieur d'autres parties, extra-parties. Le signifiant, la signifiance, autant le signifié peut rentrer dans ces deux types de substances, d'ailleurs on n'arrête pas l'esprit là-dedans, autant, pour ce qu'il en est du signifiant, de la signifiance, et donc de ce qu'on appelle le corps, sauf si on réduit le corps à ce qu'on voit à la forme, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, la jouissance du corps, le corps comme le corps de l'autre, le corps de l'autre, c'est-à-dire de ce grand A dont parle Lacan, qui est écrit comme tel, cette écriture, c'est justement cette substance jouissante qu'il faut, au sens où elle faille, c'est-à-dire où elle manque, on peut jouer sur le mot faillir et falloir, c'est pour autant qu'elle faille, qu'elle manque, qu'il faut qu'elle soit là. Et du même coup, elle est interdite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas. Et vous voyez que du coup, toute la dimension de ce qu'on appelle la loi est questionnée par rapport à la jouissance. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire un mot sur, on parlait du mythe, on parlait de la musique, sur quelque chose qui, me semble-t-il, rend compte ces éléments, et qui m'a traversé mardi dernier à l'Opéra Bastille, parce que vous êtes allé à la première Parsifal de Wagner. Pour autant que c'est l'opéra que Wagner, dont Wagner donne la première en 1882, c'est l'année avant qu'il meure, c'est le dernier opéra. Et il lui a fallu une vingtaine d'années pour écrire le livret, et il écrit en quelque sorte la musique rapidement, en 5 ans. Et c'est lui-même qui écrit ses livrets, Wagner, c'est quelque chose de très particulier. Et ce que je voudrais, pour un petit peu prendre en compte ces éléments-là, c'est dire un peu ce qui... c'est vous parler un petit peu de la position d'étrangeté dans laquelle je me suis trouvé en écoutant cet opéra, et donc en voyant se dérouler l'intrigue, et en écoutant la musique et les voix, dans la mesure où j'étais en quelque sorte dans la position d'entendre quelque chose, une histoire que je connaissais, alors c'est l'histoire d'un mythe, c'est ce que je veux dire, hein. C'est un mythe, c'est l'histoire de quelque chose qui touche bien sûr à la religion chrétienne, avec la rédemption, avec le salut, avec l'importance du sacrifice, l'importance de la pureté, l'importance d'un être pur qui va venir sauver les autres qui sont corrompus. Et ce qui est important, c'est que peut-être là, pour la première fois, vraiment comme ça, je pense que la musique y était pour quelque chose, mais je ne sais pas comment. Pourtant, j'ai une hypothèse, je vous la dirai après. Pourtant, il semblait que ce qui était raconté comme histoire n'était pas du tout faux, mais était pour moi qui regardais, qui était présent, était quelque chose qui avait perdu une certaine valeur. Et la question, c'était pas du tout, parce que ça fait très irritant, l'opéra, c'est Wagner qui fait très irritant. La question, c'est de savoir si c'était bien ou pas bien. C'était qu'il me semblait que j'étais quasiment sur la scène, je participais à quelque chose qui était le fait que c'était autre chose dont il s'agissait, que ce qui était l'histoire elle-même. C'est l'histoire d'un groupe de chevaliers qui sont gardiens du Graal et qui sont là pour garder cette chose sainte, et puis aussi de regarder la lampe qui a traversé le côté du Christ. Ça, c'est une chose, et puis évidemment, comme toujours, on a une fable hein, qui a mis à l'astuce, c'est l'histoire du péché originel, c'est pas comme ça, mais évidemment, il y a une faute qui est accomplie par le gardien, qui est en portage, qui est le fils de Turel, celui qui a créé l'association, la compagnie, et à partir de là se développe toute une série de choses, etc. Bon, ce qui me semble important, c'est le fait que, enfin pour moi à ce moment-là, ce qui est important, c'est le fait que, d'une part, c'est vrai que c'est pas simple comme la Bastille, le passage de l'Aran par les voies. D'une part, c'est pas simple, c'est l'orchestre qui est là. Et cet opéra, vous savez, qui a été joué à Bayreuth, vous savez comment c'est l'opéra, il n'y a pas du tout d'orchestre entre les spectateurs et puis la scène, l'orchestre est sous la scène, donc il y a quelque chose qui passe beaucoup mieux, c'est pas un opéra. Et c'est comme ça. Mais il y a autre chose qui était présente, et c'est ça qui me semble, c'est comme ça que j'ai présenté un peu cette substance jouissante et cet espace particulier, qui est créé par quelque chose qui là est la dimension du corps, par cette partie du corps, c'est pas les parterres, les extra-parterres, c'est la part du corps, qui est notamment la voix. Quelque chose effectivement apparaît dans cet opéra, notamment, pour ceux qui vous connaissez, vous avez déjà vu certainement beaucoup de choses là-dessus, c'est au début du deuxième acte, un cri, qui est le cri de Fondry. Fondry, c'est une sorcière, présentée comme ça. Elle a ri en voyant le Christ sur la croix. Et depuis là, elle est effectivement aussi dans une position de péché. Et ce qui est assez étrange, c'est ça, c'est que on peut penser que tout ce qui était dans cette salle, il y a Ramna qui était là aussi, on va parler avec son ami après, tout ce qui était dans cette salle pouvait plus ou moins accepter, refuser cette position, etc. Une mise en scène aussi très moderne, dans de l'hôpital, la mise en scène n'a pas été acceptée, c'est pas ça que je... Ce que je vais essayer de transmettre, c'est le fait que peut-être presque pour la première fois, moi j'étais dans une position étrange, pour autant que j'étais un peu cet étranger, c'est-à-dire comme dit Lacan, je faisais tâche, certainement, dans le public. Et je sentais converger, mais sans trop d'angoisse, quelque chose sur moi. Et ça, dès le début, alors c'est là qu'on en arrive à quelque chose qui, évidemment, pour moi est important, puisque c'est comme ça que je suis parti il y a quelques années sur le film à partir du film Don Juan, final du Don Giovanni. Au moment où Gondry, alors voilà, pas vraiment on arrive à la chose, au moment où Gondry, au début du deuxième acte, et, je donne une histoire pour qu'on y comprenne quelque chose, Gondry est endormi, et Klingsor, qui est un magicien, qui a pour fonction de casser, de démonter toute l'emprise des chevaliers, parce qu'il a été refusé, il a dû se castrer, ces chevaliers devaient effectivement faire un peu de chasteté, et lui, pour maintenir ce qu'il était obligé de se castrer, d'où le fait qu'il n'était pas acceptable. Il a monté une maison avec des femmes pas très loin, et c'est ainsi que les chevaliers, progressivement, pouvaient être tentés, et à nouveau, qu'ils pouvaient être mis dans une position de défaillance. Or, je reviens, au début du deuxième acte, c'est ça que j'ai essayé de vous transmettre. Au début du deuxième acte, ce qui se passe, c'est qu'en entendant ce cri, alors c'est vrai que un cri, on est poussé, et c'est en sens ça que ça touche la dimension de la signifiance, on est poussé à lui donner du sens, avec le cri de Don Juan, avec le cri de Don Juan, avec toutes sortes de choses, bien sûr. En fait, On peut dire que par définition, un crime n'a pas de sens. On lui en donne, ça c'est possible. Mais un cri n'a pas de sens et un cri ne rompt pas le silence, un cri fait entendre le silence. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le cri, c'est quelque chose qui fait au silence tenir la note. Ce que j'ai écrit dans l'instruction longue. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Kondry émet ce cri, quelque chose fait que, effectivement, et je me fiche pas mal de savoir si Wagner a pensé ça, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est ça notre travail de psychanalyste, de l'artiste, c'est qu'est-ce qu'un récepteur hein. C'est essentiellement ça, c'est-à-dire que l'émetteur peut en quelque sorte, essayer de créer son insu, c'est le récepteur qui va le simplifier, en définition. Eh bien, au moment où ce cri, qui évidemment doit être du son, c'est-à-dire du, on va appeler, du réel s'accédant au symbolique, le réel s'accédant, c'est pas le symbolique qui branche le réel, c'est le réel qui s'accède au symbolique. Et c'est une, je crois que c'est une formulation assez intéressante. Le réel, c'est l'insaisissable. S'accédant au symbolique, c'est-à-dire qu'entre les deux, quelque chose va fonctionner comme un lien particulier. Alors, chez celui qui entend cette substance jouissante en élaboration, je crois que si on l'entend, c'est parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait que il y a en nous une présence qui apparaît, et à ceci près, je crois qu'effectivement que pour pouvoir l'entendre, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'on entend, bien sûr, mais il importe qu'auparavant, on ait été dans cette position d'étrangeté dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'on est d'accord, mais ça n'a plus la même valeur, ni pour critiquer, ni pour accepter, tout ce qui est dit au niveau du christianisme à ce moment-là. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui fait que ceci renvoie, me semble-t-il, pour en discuter, à ce quelque chose que Lacan appelle encore, en deux mots, appelle le pas-tout, qui est la dimension du féminin, c'est l'élaboration du pas-tout. Il dit, ce séminaire que j'ai nommé encore, en fait, ça revient à dire ceci, que j'essaie de faire, c'est l'élaboration du pas-tout, c'est-à-dire, vous savez, pas-tout dans la fonction phallique, c'est-à-dire la dimension du féminin, et cette signifiance elle-même, vous savez que Lacan a approché la dimension du féminin de ce rapport à l'autre, de ce rapport au grand S de grand Tabaré, il dit que c'est la femme, mais au sens du féminin. Alors féminin, ça veut dire la part féminine de tout être parlant, c'est pas du tout le fait d'être en fonction du caractère sexuel, primaire, secondaire, tertiaire, que la manière féminin ou masculin, au sens habituel du terme, c'est qu'on a tous nous-mêmes. Tout être parlant, du fait de la langue, et l'inconscient, ce savoir-faire avec la langue, qui, à un moment ou à un autre, peut permettre que, je reprends les choses, du réel s'accède au symbolique. Et je crois que c'est ça, effectivement, qui fait entendre la dimension particulière qui est la dimension de la jouissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait habituellement de cette analyse? Il y a depuis des lustres, un couple particulier, il apparaît notamment, plus particulièrement, dans la voix, là, enfin, évidemment, l'enregistrement. On sait qu'avant d'écrire, Augustin d'Agaste faisait des parler, écrire après. Un peu comme Paul, de l'art. Et quand il écrit, je vous renvoie au tome 1, au chapitre 1 de Die Doctrina Christiana, qu'il écrit entre 1933 et 1997, il reprend un couple qui était assez connu, mais qui n'était pas formalisé, peut-être tout à fait pareil. Évidemment, l'accord va reprendre ça. C'est le couple, en latin, uti frui. Uti, ça vient du latin, qui veut dire user, la valeur d'usage. Et frui, c'est la jouissance. Et il sort une citation, on en a parlé dans la discussion la dernière fois. Frui, jouir, est amori par amour, inerare, aliquere, s'attacher, mais avec inerare, c'est s'attacher intimement, aliquere, à quelque chose, propter se ipsam, par elle-même, pour elle-même, pardon, pour elle-même. C'est-à-dire que Augustin va, et sur Augustin va rester dans la perspective chrétienne, c'est-à-dire dans le fait que on aura à user, enfin, il appelle ça des. Non, reste, des choses. Et reste, vous savez qu'on peut tirer reste, le mot reste, latin, on peut tirer du côté du reus, c'est celui qui est coupable. Quand on fait des citations de Lacan, on est coupable du réel, on voit quand même qu'il y a des choses, il y a des passages comme ça. Hein, on est toujours coupable du réel, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Dans la position de Disney, effectivement, il s'agit effectivement d'user des choses en vue de quoi ? Du souverain bien qui est la jouissance de Dieu et de la Trinité. Vous trouvez déjà ça, vous trouvez ça chez Cicéron, donc bien avant. On peut même penser qu'Augustin, qui connaissait bien Cicéron, en quelque sorte trouvé dans le Hortensius de Cicéron. Et puis il y a aussi un autre aussi, on trouve ça, c'est Baron, que vous connaissez aussi, Augustin. Et puis après, il y a Plotin, qui va aussi parler de ça, après Jésus-Christ. On arrive comme ça, on arrive à Augustin. Et puis après, les choses restent à peu près en état, et puis. Quand Lacan parle de ça, il arrive tout de suite après à Bentham, à la théorie des fictions, pour parler d'utilitarisme. Et puis on arrive à la plateforme dont Lacan nous propose, nous dit ceci, outil et fruit, ce sont les deux éléments fondamentaux de la physique lacanienne. Séminaire, dans le séminaire, les noms du père. À un moment, je crois que c'est le deuxième ou le troisième séminaire. Du rêve, et il rapproche la jouissance d'un texte de Freud de 1925 sur le rêve, qui s'appelle Les limites de l'interprétation, et il rapprocha de ce que Freud appelle le Lust Gewinn, le but de jouir. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on fait actuellement ? Qu'est-ce qu'on fait en rapport avec ce couple outil-esprit ? Je crois que ça permet un petit peu de, même plus qu'un petit peu, ça permet beaucoup d'essayer de se laisser surprendre par ce qu'on appelle la règle fondamentale. Si on demande à quelqu'un de parler, finalement, non pas de tout dire, c'est que justement c'est ce qui est tout à fait exclu, d'essayer de parler, c'est parce que, et c'est une position. C'est parce que on suppose aux mots, et notamment à certains mots, la dimension de l'être. Et ce qui est demandé à quelqu'un qui parle, dans le cadre du transfert, c'est quoi ? Alors là, on pourra en parler aussi, peut-être qu'il peut se passer sur une scène, au cinéma ou par exemple. On demande quoi à quelqu'un qui parle, c'est qu'il use, il dit attends, jusqu'à la corde, jusqu'au trognon. L'être qui est présent dans certains mots. Et peut-être alors, on va toucher la dimension du signifiant. Autrement dit, tant qu'on est dans le signifié, tant qu'on est dans le sens, et il faut bien passer par là, on est, ben justement, dans ce qui fait qu'on est dans quelque chose d'important, mais on ne touche pas à cette dimension de la substance jouissante dont on parle. Avec toute la difficulté et tout l'intérêt de la langue française, qui nous dit que jouir, bien sûr, c'est quelque chose qui a à voir avec oui. Avec dire oui. À dire oui à quelque chose. On ne peut pas ne pas prendre en compte cette dimension qui est, bien sûr, celle de la langue, et qui fait que, en usant des mots, et notamment en usant des mots au sens où on laisse les mots se presser les uns avec les autres, et non pas en restant dans la substance pensée qui les organise, si on les laisse venir, et si on fait cette dimension de la presse qui s'oppose à l'adresse, à dresser quelque chose, qui renvoie à ce qu'on appelle dans le jargon psychanalyste la fonction phallique, si on laisse aller dans cette dimension, s'il est possible de laisser aller, alors on tombe sur des formulations où on sait que justement l'intérêt, c'est-à-dire la vérité, c'est pas dans le sens, mais des formulations du type de celles que j'évoque, c'est-à-dire ce à quoi il faut se tenir, c'est le fait qu'il faut une jouissance qu'il ne faut pas. Voilà. Et on pourrait dire que c'est dans ce nuage-là, celle de la jouissance, celle-là même, que justement il ne faut pas, que se trouve cette présence particulière qui du coup traverse la rampe au théâtre, traverse la rampe à l'opéra, et qui est une façon de transmettre l'au-delà des mots, il n'y a pas du tout à ce qu'on se sens de la signification des mots, mais le fait que c'est pour autant que, à un moment, et dans l'expérience personnelle dont je vous parlais, ça ne vient pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'à un moment, hein, pour ceux qui connaissent, je vous rappelle l'exemple dont parle Lacan, il va passer des années à se demander, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a dit, voilà, tu vois une de concert là-bas, tu la vois, elle ne te voit pas. Il est sur une barque. Puis que très longtemps après, en 64, il va donner, il va dire, c'est pas elle ne te voit pas, c'est elle te regarde. Et que pendant des années, pendant ces 15-20 ans, il y aura eu toute cette période d'étrangeté particulière, et à un moment, eh bien, il trouve quoi? Il trouve ce qu'on appelle, il va découvrir comme ça la dimension du regard, qui est au cœur du tableau, nous regarde, qu'on ne voit pas, et qui, parce que justement, c'est pas quelque chose qui nous voit, c'est quelque chose qui est dans du regard, et que, c'est cette mise en garde qu'est la jouissance, avec toutes les équivoques de ces formulations. Est-ce que ça arrête? Est-ce que ça fait halte? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que ça arrête la jouissance? C'est toute la question. On ne peut pas la saisir en tant que telle. Donc, ce couple particulier, fouti, fouille. Usage, jouissance, qui est au cœur de l'humain. Et pourquoi il est au cœur de l'humain? Parce qu'il y a, cette jouissance. Je vais terminer, forcément, ça va être un petit peu... Parce que j'appellerais des éléments de structure chez Lacan. C'est que la structure chez Lacan, c'est pas la structure au sens où on en parle habituellement. C'est pas la structure de Freud, c'est pas... Il faut des éléments de structure, non, c'est pas comme ça. À un moment, Lacan, il sent un truc. C'est toujours par cas. Alors, au début, t'as des complexes familiaux, le quatrième élément, c'est la mort. Alors, le père, la mère, l'enfant, etc. Et il y a la mort. Bon. Après, il va sortir, quoi, le schéma L, le quatrième élément. Il n'y en a pas trois. Alors qu'on n'avait pas trois faire trois. Après, il va sortir le noir, qui est quatre éléments. Après, il va sortir les fourmis de la situation, il y en a quatre. Puis là où il en arrive à ce moment-là, quand il aborde ces questions-là particulièrement, il y a quatre éléments. Alors, c'est l'impossible, c'est le nécessaire, c'est le contingent, c'est le possible. Alors, c'est intéressant parce que je trouve que la façon dont c'est formulé renouvelle une sorte de, on va dire, de pensée lacanienne, ce côté nous dit fruit et outil, c'est les deux éléments, comme ça, j'ai pas beaucoup entendu ça. Mais évidemment, c'est comme une chose importante, c'est une phrase qui est écrite à un endroit, c'est tout à fond. Cette phrase est précise parce qu'elle est articulée au lieu d'une ligne de Freud qui parle du rêve, du chiffrage dans le rêve, n'importe quoi. Ça paraît pas n'importe quoi, on ne peut pas comme ça. On ne peut pas comme ça sans critiquer. Enfin, je pense qu'on prendra ça une prochaine fois. Alors, il y a quoi? Il y a le fait que il y a quelque chose qui ne cesse pas, nécessité, qui ne cesse pas de s'écrire, c'est la nécessité. Alors, bien sûr, là, on est effectivement dans la dimension du sens, dans la dimension du semblant, on peut prendre différentes choses. Dans la dimension de communication, d'explication, besoin de ça. Il y a quelque chose qui ne cesse pas de s'écrire. Et ceci recouvre le fait que ce qu'il appelle le rapport sexuel ne cesse pas de ne pas s'écrire. Le rapport sexuel, c'est évidemment pas le rapport sexuel au sens du terme, tous les mots sont. C'est quoi l'amour sexuel? C'est en grand, pour dire les choses, je dirais simplement, c'est la rencontre du tout homme et du pas tout. Et c'est tellement rare, ça peut être quasiment impossible. Et puis, alors, ceux qui ne cessent pas de s'écrire, ceux qui ne cessent pas de ne pas s'écrire, c'est le réel, et puis alors voilà, c'est pas la supériorité. Pour autant qu'il y a justement cette jouissance, et ce corps particulier, que sans doute pas de façon inappropriée, je ne sais pas encore si c'est excessif. J'ai commencé cette année en rapprochant ça de cette image non visible du Père, qui est le Christ au moment où c'est présenté comme tel. Enfin, on prendra ça une autre fois, parce qu'on touche à des éléments qui sont pas simples, là. On touche à des susceptibilités personnelles qui sont légitimes. Eh bien, qu'est-ce qui fait la grande question de l'inconscient, elle est là, c'est les questions de l'inconscient. Si on articule l'inconscient à la langue, à savoir-faire avec la langue, il y a quelque chose qui touche à la jouissance, quelque chose qui s'entend. L'inconscient, ce n'est pas que l'être parle, c'est qu'en parlant, il jouit, et qu'il ne veut rien en savoir de plus, c'est-à-dire rien en savoir du tout. Ça, c'est comme ça qu'on présente l'inconscient, la fin du séminaire encore. C'est pas du préconscient qui serait refoulé, c'est autre chose. Et c'est insaisissable, l'inconscient. C'est un moment. Apparaît ce sujet comme il existe. C'est pour ça qu'il est barré. Donc il veut se barrer, c'est la même écriture. Donc ça dépend comment on voit ça. Il est ainsi, il est si à Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait la grande énigme de ça? Et qu'est-ce qui fait que ceux qui ne cessent pas de s'écrire cessent de ne pas s'écrire? Parce que c'est ça la question. La création est là. Donc ceux qui ne cessent pas de s'écrire cessent de ne pas s'écrire. Et qu'est-ce qui cesse de ne pas s'écrire? C'est-à-dire, cesse de ne pas s'écrire, c'est la dimension de la conscience. Donc que Lacan, de façon tout à fait particulière, avec beaucoup de... Il faut entendre, parce que le texte écrit, alors là c'est... Je crois qu'il était beaucoup, beaucoup perdu, notre cher Jacques Alain Ménard, dans tout ça, parce que vraiment, il fait des raccourcis, etc. Il ne peut pas m'entendre. Je crois que c'est le dernier séminaire, encore, peut-être l'avant-dernier, je ne sais plus. Et je crois que justement, Lacan est en train de parler de quelque chose qu'il ne peut pas s'écrire. Alors qu'est-ce que c'est que les séminaires de Lacan qui sont mis par écrit? Ça pose aussi des questions. En plus, il a bien appelé ça écrit. Mais pas du tout écrit, c'est pas écrit quelque chose. C'est transmettre ce réel s'accédant. Donc, c'est la question du récepteur. Eh bien, Lacan, dans ce séminaire, à la fin de ce séminaire, pose la question suivante. La jouissance de l'autre est une impasse. Alors, on a tout compris, c'est une impasse, pas du tout. C'est une impasse parce que d'un côté, elle est perverse, pour autant que l'autre, c'est l'objet titan, c'est qu'on jouit de l'autre comme objet titan. Mais il y a aussi l'autre jouissance qui est folle, qui est mystérieuse, qui est énigmatique. Ça, vous entendez la dimension du féminin, pas tout. Et que c'est pour autant qu'on rencontre cette impasse. Il faut rencontrer l'impasse. Qu'alors, on rencontre par le biais de l'impasse le réel qui est en jeu. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse s'écrire, comme vous dites. C'est impossibilité. Et alors, il peut arriver, c'est que ce réel, vous allez voir, on s'approche de la formulation d'Augustin, parce que c'est quelque chose qui est très bien, évidemment, Augustin d'Agathe. Combien de fois il est revenu sur la jalouissance, la jalouissance du frère jumeau, du collactalium, du frère de l'être. Eh bien, il peut arriver, si cette substance jouissante qui est le corps advient, et ça, c'est une histoire qui se passe dans la langue, qui passe par le corps, mais qui passe dans la langue, il peut arriver alors que le dit rapport sexuel comme il dit devienne rapport de sujet à sujet. Sujet en tant que sujet de l'inconscient, comme effet de l'inconscient. Et alors, le dit rapport sexuel cesse de ne pas s'écrire. Autrement dit, on est dans une sorte de tricot fugué qui fait que si on met un plat des choses, il y a l'impossibilité du rapport sexuel, des rencontres, et pourtant, c'est pour autant que est rencontré cet impasse qu'est la jouissance de l'autre, comme ça, que dans le même temps est rencontré le réel, et que ce joui qui est dans le réel, est-ce que c'est du surmoi? Je ne sais pas. Je pense que ça, les formulations du surmoi, Lacan, ça c'était les années 59-60. Là, on est en 73-74. Parce que ça peut être reçu comme tel, comme du surmoi, bien sûr. Mais il est possible que, c'est ça le contingent, il peut arriver que ce joui puisse être entendu de telle façon que lui soit répondu un oui qui est bien un joui, mais qui n'est pas le commandement. C'est un peu ce que j'ai dit là, à la présentation de la troisième numéro d'insistance, et c'est pendant la temps que je suis parti un peu mieux aussi, j'ai eu du mal à un moment. Bon. Tout ça pour montrer à quel point, il me semble, on peut être pris on peut être pris dans quelque chose, et que ceci, cette dimension de la voix particulière, eh bien, quand elle apparaît, nous transmet, et c'est ce qu'on pourra retrouver aussi dans le mythe, c'est ce qui est au cœur de la musique, nous transmet le fait qu'il y a à ce moment-là ce que nous appelons cette rencontre particulière, c'est l'amour. Oui, est amoré, alifié, réunéraré, au perfectum. Augustin avait bien lu l'histoire de l'amour. La seule chose, c'est que ce n'est pas l'amour au sens narcissique du terme. C'est que pour rencontrer le réel, lui dire oui, c'est ça l'expérience. Et il y a bien quelque chose qui nous, cette jouissance de l'autre, du corps de l'autre, au sens qu'on essaie d'en parler, est l'amour. Le problème, c'est que habituellement, tout ceci est recouvert par la signification du sens, c'est-à-dire ce qui ne sait pas s'écrire. Voilà, je m'arrête là.